Médien.
Média. Podcast.
Médien. Podcast.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Planète Business, votre rendez-vous dédié aux grandes mutations économiques, environnementales et sociétales qui façonnent l'Afrique de demain. Et aujourd'hui, nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises, d'agroécologie et de compostage, mais aussi de transition durable. Et face au changement climatique, à la dégradation des sols et aux nouveaux défis alimentaires entre les entreprises, les agriculteurs et les pouvoirs publics, aujourd'hui, tous ces secteurs sont appelés à repenser leur modèle. La RSE peut-elle donc réellement devenir un moteur de développement durable et de souveraineté alimentaire en Afrique de manière particulière? Élément de réponse avec notre invité, M. Kamal Aberkani, professeur à la faculté pluridisciplinaire de Nador, Université Mohamed Ier. Professeur, toujours un plaisir de vous avoir comme invité dans cette émission.
Bonjour, merci pour l'invitation et un plaisir partagé aussi avec vous.
Alors, nous allons mettre les pieds pleins dans l'agriculture et aussi dans l'environnement de l'agroécologie, du compostage et aussi de la responsabilité sociétale. Et aujourd'hui, à votre avis, avec les nouvelles exigences environnementales, sociales et aussi la gouvernance actuelle, comment les entreprises peuvent-elles réellement intégrer la RSE au cœur de leur modèle économique pour donc tout en restant plutôt compétitives?
Alors bien sûr, la RSE maintenant, c'est la nouveauté, aussi c'est une obligation, parce que normalement avec une agriculture intensive durant les dernières années, on a eu beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais chimiques et beaucoup de pollution vers l'environnement, etc. Et je pense que maintenant aussi l'intérêt commercial des entreprises, maintenant on parle plus d'un intérêt commercial, on parle d'un intérêt qui est commun, parce que quand même les entreprises, ils font partie de notre société. On a vécu des mutations climatiques durant les dernières années, et je pense que aussi indirectement les entreprises ont été affectées. Alors je pense que maintenant dans le continent africain, surtout les petites moyennes entreprises, ils ont un intérêt de s'associer dans ce RSE avec les agriculteurs, avec l'environnement. Pourquoi? Parce qu'on fait face aux mutations climatiques donc et aux pressions environnementales. Donc ils sont affectés indirectement et peut-être je pense que c'est très important parce que c'est pour le long terme. À un moment donné, on va éliminer de plus en plus des engrais chimiques et des intrants chimiques. On va se trouver avec des produits durables et résilients au changement climatique.
Et changement climatique, donc les produits résilients, toujours dans cette dynamique de pouvoir montrer cette responsabilité sociétale des entreprises par rapport aujourd'hui à l'agroécologie, comme nous venons de le dire. Et d'ailleurs, professeur, dans ce cas de figure, face aux enjeux climatiques d'ailleurs et alimentaires, comment les acteurs privés peuvent-ils, eux, accompagner les producteurs vers des pratiques agricoles plus durables et aussi résilientes?
Je pense que c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que maintenant, comme je disais tout à l'heure, les entreprises, elles ont été affectées eux-mêmes aussi avec le producteur. Il n'y a pas que le producteur qui est affecté. Si jamais ça ne marche pas pour le producteur parce qu'il y a de la sécheresse, il y a des inondations, les entreprises aussi sont affectées. Si on prend par exemple l'exemple des entreprises qui vendent des semences, comme par exemple on a vu au Maroc durant les dernières années avec la sécheresse, avec les mutations climatiques dans plusieurs pays africains, c'est qu'on n'utilise plus de semences qui peut-être qui vont utiliser plus d'eau ou bien qui vont être... qui ne tolèrent pas les maladies, etc. Donc je pense que maintenant les entreprises ils vont penser à trouver des solutions pour les producteurs. Et je pense que dans le futur, c'est vraiment la solution que les entreprises ils s'intègrent dans la R&D, recherche et développement, soit avec les producteurs, soit avec les universités, avec les centres de recherche, pour trouver des solutions durables à l'agriculture, pour promouvoir la production avec moins d'utilisation, comme je disais tout à l'heure, d'intrants chimiques, et aussi ils vont utiliser moins, par exemple, d'intrants agricoles. Et vous avez vu avec toutes ces mutations géopolitiques et géoéconomiques internationales, avec le carburant qui est vraiment en croissance, et aussi avec tous les engrais chimiques, je pense que l'entreprise va jouer un rôle très important en agriculture pour faire face aux ces aléas climatiques et aux mutations géoéconomiques.
Aux mutations géoéconomiques, d'ailleurs, dans quelle mesure les investissements responsables dans l'agriculture locale peuvent-ils renforcer cette sécurité alimentaire et aussi réduire la dépendance plutôt aux importations?
Alors, je pense que la question de fonds, c'est très important. Des fois, il y a des ONG qui subventionnent, il y a des programmes, soit des institutions étatiques au niveau africain, il y a aussi des investissements privés. Toujours, on entend parler par des programmes intégrés. Mais je pense que maintenant, il va falloir penser, tant que les entreprises ils vont s'intégrer dans cette approche, on appelle un programme qui s'appelle le matching money, c'est-à-dire que les entreprises ils payent toujours des impôts. Alors à ce moment-là, il y a déjà des modèles on a vu dans plusieurs pays développés, une entreprise, au lieu qu'il paye 20% d'impôts, il peut payer 10% d'impôts et 10%, il peut s'associer dans ce genre de développement. Il amène une semence, il fait de la recherche avec l'université, avec les centres de recherche, en partenariat avec les stakeholders ou les parties prenantes. Et comme ça, l'entreprise, il va avoir des gains parce qu'il peut vendre son produit et en même temps, il s'intègre dans cette solution et dans une solution durable pour l'agriculteur et même pour l'économie. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est une chaîne, tout est affecté. Si le producteur, ça ne marche pas pour lui, automatiquement, quand l'entreprise aussi, ça ne va pas fonctionner pour lui. Alors je pense que cette intégration est très importante. Il y a beaucoup de programmes, moi je peux dire au niveau international, mais à mon avis, tant qu'expert en sciences de l'agriculture, je suis dans le terrain, je pense que ces subventions, surtout pour l'agriculture écologique et durable, elles sont minimes. Je pense qu'il faut une feuille de route de financement soit au continent africain, soit au niveau international, pour ce genre de programme.
D'ailleurs, pour ce genre de programme, toujours dans le cadre du développement de cette agriculture dans toutes ses facettes, le développement du compostage aussi y figure. Est-ce que, par rapport à cette pratique, peut-il devenir un modèle durable de gestion des déchets organiques tout en soutenant l'agriculture urbaine et périurbaine?
Alors oui, l'agriculture urbaine et périurbaine, maintenant, je pense que c'est pas la mode, mais c'est une nécessité. C'est que on se trouve dans des zones urbaines avec des constructions, à la place des zones rurales. Et je pense que maintenant, de plus en plus, on peut voir des petits jardins, des petits producteurs avec des hectares, 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. Et je pense que le recyclage de la matière organique est très important parce qu'on a beaucoup de déchets. Et moi, lorsque je parle de déchets, ce sont des déchets urbains, des déchets durables. C'est pas des déchets qui sont utiles pour la fertilité. Je pense que le compostage dans ces zones-là, c'est très important. Et je pense que l'agrégation de ces petits producteurs, c'est une bonne démarche et une bonne piste ou une bonne stratégie pour rassembler ces producteurs, d'avoir des unités de compostage communes. Au lieu qu'un producteur ait fait un compostage lui-même, il peut avoir toute une coopérative de compostage parce que ça peut être moins cher parce que le problème, c'est que c'est le transport qui coûte des fois plus cher. Mais le compostage, c'est très important pour la fertilité du sol. C'est pas assez. Je ne peux pas dire qu'avec le compostage, on peut donner tout pour produire plus. Mais quand même, c'est une bonne alternative future pour nos sols. Parce que généralement, dans les productions qui sont intensives, les producteurs, ils ont tendance d'utiliser plus de matières chimiques, NPK. Ils oublient, parce que c'est question de coût, ils vont dire oui, mais qu'est-ce que ça va servir à quoi ce compostage? Le compost, c'est pas que un engrais, c'est vraiment, il va favoriser la vie microbienne au niveau du sol, de la structure, etc., pour avoir un sol moins dégradé et durable pour une agriculture.
Moins dégradé et durable pour une agriculture. Et d'ailleurs, dans ce cas de figure, je vous invite d'ailleurs, professeur, avec nous en restant. Je rappelle que nous sommes avec M. Kamal Aberkani. Nous allons d'abord passer à la minute RSE pour revenir sur le tour de l'actualité. Qu'est-ce qui anime aujourd'hui en 2026, notamment en ce mois de mai, l'actualité RSE? C'est tout de suite, avant de revenir avec notre invité, M. Kamal Aberkani.
Ce mois de mai 2026 confirme une accélération mondiale de la transition durable. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les capacités mondiales d'énergie renouvelable ont progressé de 16% en 2025, atteignant un record historique de 800 gigawatts supplémentaires. Le solaire représente désormais plus des 3/4 des nouvelles installations dans le monde. Autre chiffre marquant, les énergies renouvelables représentent aujourd'hui près de 49% de la capacité électrique mondiale, contre 46% 6% l'année précédente et l'Afrique commence elle aussi à accélérer. Le continent a installé un record de 4,5 gigawatts de capacité solaire en 2025, soit une hausse de 54% en un an. Des pays comme le Maroc, l'Égypte, le Kenya ou l'Afrique du Sud misent fortement sur le solaire et les infrastructures vertes. Dans le même temps, plus de 11 milliards de dollars d'investissements verts ont été annoncés ces derniers jours pour des projets énergétiques durables en Afrique. Enfin, la RSE évolue. Aujourd'hui, les entreprises ne sont plus jugées uniquement sur leur discours, mais sur des résultats mesurables en matière de climat, de gouvernance et d'impact social.
De retour avec vous, Monsieur Aberkani, aujourd'hui dans cette dynamique toujours de parler de responsabilité sociétale des entreprises avec l'agroécologie et le compostage de manière exemplaire. Pensez-vous aujourd'hui qu'il existe des mécanismes financiers innovants qui pourraient donc permettre aux agriculteurs et aux PME vertes d'accéder plus facilement au financement durable ?
Alors oui, bien sûr, pour question de financement, comme je disais, c'est un point très important parce qu'avec sans financement, on peut rien faire des fois dans quelques projets comme les projets d'agroécologie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de financement en Afrique en agroécologie. On trouve des financements soit au niveau national pour les pays africains et des fois on peut trouver des financements, par exemple, je ne sais pas, de la Banque mondiale, de la Banque africaine et du financement des organismes non gouvernementaux, les ONG. Pour l'agroécologie, parce que maintenant, de plus en plus, il y a la pression pour le moment, parce qu'il faut savoir que l'agriculture, quand même, est un secteur qui est pollueur, hein. Il n'y a pas que l'industrie. On parle de la séquestration de carbone, on parle de plusieurs points, et surtout aussi l'impact de l'agriculture écologique, l'impact socio-économique sur l'agriculture. On parle des zones montagneuses, des zones difficiles. Alors, je pense qu'il y a aussi la migration des agriculteurs vers les zones urbaines parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de boulot. Je pense qu'il y a tout un intérêt dans le futur pour financer ce genre de pratiques agricoles écologiques, moins de pesticides, etc. Je pense aussi qu'il faut revoir la politique de financement parce que des fois, on peut avoir des financements, mais il n'y a pas de livrable. On applique un projet, un financement dans un endroit et qui n'ont pas de livrable, on va dire « Ah, bah ça ne marche pas ». Je pense qu'il faut revoir la politique de financement, quel type de producteur, quel type de production, où il faut financer et c'est quoi l'impact, pas à court terme, mais aussi à long terme.
À court terme et à long terme, justement, dans cette même dynamique, il y a une question qui aujourd'hui apparaît par rapport à ce système d'agriculture responsable, c'est la réduction des intrants chimiques. Est-ce que cette pratique aujourd'hui peut améliorer durablement la qualité des productions agricoles, la santé publique et la préservation des écosystèmes ?
Alors oui, bien sûr, parce qu'on se trouve avec une agriculture intensive qui utilise des engrais chimiques, parce qu'on a l'habitude de produire plus, d'avoir plus de bénéfices, même si ça coûte pour l'environnement, mais il faut produire. Et je pense que maintenant, de plus en plus, avec le cahier de charge ou les normes internationaux d'exportation, ou même aussi la sensibilisation. Maintenant, je pense que les citoyens européens ou bien même africains, ils sont de plus en plus sensibilisés par cette question de pesticides. Il faut réduire les matières actives. Mais je pense qu'on ne peut pas réduire brusquement la matière chimique en agriculture. Parce que des fois, on se trouve avec des situations vraiment on a besoin d'appliquer une telle matière active, mais je pense qu'il faut aller doucement d'éliminer plusieurs matières actives qui sont sur le marché c'est une question d'habitude, hein. Je peux produire 40 tonnes de tomates, mais je peux prendre, par exemple, je peux produire que 30 tonnes de tomates, mais avec moins de pesticides, je pense que c'est mieux. Mais la question, il faut convaincre le producteur avec ça. Donc, je pense que pour le long terme, avec le long terme, à un moment donné, on va se trouver avec une situation où on va réduire des pesticides et des engrais chimiques. Pourquoi pas ?
Et pourquoi pas ? Et d'ailleurs, aujourd'hui, par rapport à cette même réduction, de votre point de vue, comment les politiques RSE peuvent-elles, elles, favoriser l'émergence de nouveaux emplois verts liés donc à l'agroécologie, au recyclage organique et aussi à l'économie durable ?
Alors oui, je pense que question de politique RSE, peut-être dans un premier temps, il faut motiver ces entreprises à s'intégrer. Parce qu'une entreprise, il va dire, oui, mais écoute, moi, je suis en train de faire mon profil avec mon commerce. À quoi ça va me servir de faire, par exemple, de partager dans l'agroécologie? Mais si jamais il y a des subventions ou sur certaines, je sais pas, éléments, c'est-à-dire quelque chose avec l'entreprise, il faut les motiver financièrement, il faut vraiment donner le gain. Qu'est-ce que l'entreprise y va gagner de ça? Et aussi, en même temps, il faut pas que sensibiliser et aussi faire des restrictions, c'est-à-dire, oui, vous faites telle pratique, mais vous n'avez pas le droit de le faire dans telle zone, etc. Moi, je pense qu'avec ça, ces entreprises, ils peuvent s'intégrer dans, voilà, dans cette approche-là, et même le producteur aussi. Par exemple, si on fait du semis direct de céréales, parce qu'on sait avec le semis direct de céréales, on utilise moins de carburant, on détériore moins le sol, alors les États ou les institutions étatiques, on l'a vu au Maroc aussi, avec la subvention du semis direct des céréales. Donc, on donne de l'argent pour acheter le semoir. Donc, ça, ce sont des gens, des choses qu'on peut motiver le producteur et il s'engage en même temps, par exemple, de produire, au lieu qu'il produit des céréales sur conventionnelles avec la dégradation du sol, au lieu qu'il fait 100 hectares, ben, à un moment donné, il s'engage pour faire 70% de ses superficies. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là de subvention, de motivation et aussi avec des restrictions.
Avec des restrictions et aujourd'hui entre innovation, réglementation et urgence climatique, quelles devront être, à votre avis, les grandes priorités des entreprises africaines en matière de développement durable dans les prochaines années?
Ben, moi, je pense que pour les prochaines années, il faut organiser le secteur entrepreneuriat au niveau agricole, parce que des fois, on se trouve dans des chemins qui nous amènent plus à un intérêt commercial. Il faut savoir quel est le livrable pour le producteur et pas que le producteur, pour la société, pour l'impact socio-économique de cette entreprise, qui fait quoi et comment il faut réagir. Alors, je pense que c'est pas que c'est une obligation, mais je pense que c'est un esprit citoyen que les entreprises y vont s'intégrer. C'est pas parce qu'ils sont obligés de faire ça, c'est parce que c'est une question de durabilité. Ils vont savoir qu'à un moment donné, l'entreprise, il faut qu'il survive pour ces changements climatiques. Il faut pas penser que pour aujourd'hui, demain. Il faut penser d'ici 10 ans. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Je pense que la RSE pour les entreprises agricoles dans le domaine écologique ou même dans l'agriculture intensive, ça devient, je pense, c'est très important. Et c'est quelque chose qui peut avoir lieu pas demain. Comme je disais, c'est un processus de long terme, pourquoi pas, qui va avoir lieu dans le futur.
Qui va avoir lieu dans le futur et à travers l'agroécologie, le compostage et les nouvelles stratégies RSE, une autre vision du développement économique semble progressivement émerger en Afrique, plus durable, plus responsable et davantage tournée vers l'avenir. Mais cette transition nécessitera bien évidemment des investissements, des politiques publiques solides et surtout une mobilisation collective. Monsieur Kamal Aberkani, merci encore d'avoir aujourd'hui accompagné dans cette émission.
Merci à vous.
Et
Au
merci
revoir.
également à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris très bientôt pour une nouvelle immersion au cœur des enjeux économiques et environnementaux qui transforment notre continent. C'était votre émission Planète Business. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro.